Nous avons une deuxième table ronde sur le thème eau, sol, nature, nouvel équilibre des villes et des territoires. Donc, j'appelle les participants à me rejoindre. En même temps, je pense, mais sous le contrôle des trois participants à la première table ronde, pouvoir répondre à une question qui est posée, qui est quid du goût d'une tomate hors sol et d'une cultivée dans la terre ? Ben, je pense que vous auriez répondu que c'est à peu près le même, ou même exactement le même, non ? Ben, après ça, vous pourrez aller voir les spécialistes. Alors, pour les participants à cette deuxième table ronde, M. Chabanon est souffrant, mais il sera remplacé par Marie-Christine Huot, qui est agronome, qui est vice-présidente de l'association qui nous réunit, Vivant et la Ville, et qui est directrice de projet aménagement durable dans une grande maison, partenaire de toutes ces opérations d'ailleurs, qui est Veolia. M. Cyril Portalès, lui, qui est à l'agence de l'eau Seine-Normandie, Monsieur Thierry Laverne, qui est urbaniste paysagiste, et Monsieur Jean-François Bell, du syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et cours d'eau en Essonne. Voilà pour nos quatre nouveaux arrivants. Le système est le même, vous allez voir, on reçoit plein de SMS, ce qui est plutôt sympathique, ça prouve l'intérêt pour la discussion. Et nous allons maintenant parler de la gestion urbaine de l'eau. Avec une première question, qui voudra répondra. La ville est-elle l'ennemi d'une bonne gestion de l'eau ? Un grand silence. Peut-être Marie-Christine, alors ?
Je veux bien inaugurer la série. Effectivement, on peut se poser la question de la barrière, finalement. Dès lors qu'on construit la ville, on vient mettre une barrière sur l'écosystème naturel. D'où d'ailleurs l'interpellation sur le titre de cette table ronde. Finalement, est-ce que l'eau, le sol et la nature sont-ils un nouvel équilibre pour la ville ? Donc la question préalable, c'est effectivement la ville s'agrandit. Ça a été dit en introduction, 60% de la population habite les villes. Donc on doit construire des villes. Et donc forcément, on crée une barrière à l'écosystème naturel. Donc pour répondre à la question, on pourrait dire oui. Que ça pourrait être l'ennemi. En revanche, on sait gérer l'eau. On sait gérer l'eau dans les villes. On sait amener la ressource en eau pour que ça devienne de l'eau potable et on sait traiter très bien l'assainissement de l'eau qui est rejetée des consommations des populations des villes. Donc là, ce n'est pas l'ennemi. En revanche, on peut se poser la question au regard de la ville posée sur le sol et des aléas climatiques, et comme l'a rappelé, comme ça a été rappelé en introduction, on le voit avec les catastrophes dans le monde, finalement, l'aléa climatique, quel rôle joue-t-il ? Et pour le coup, est-ce que la ville ne devient pas l'ennemi de l'eau de pluie ?
Monsieur Laverne.
La ville est un acteur, alors soit c'est un partenaire, soit c'est un adversaire. Il est clair qu'effectivement, avec l'imperméabilisation des sols, la ville a une responsabilité énorme vis-à-vis de la gestion de l'eau. Elle est à la fois effectivement un potentiel énorme, elle peut produire une ressource incroyable, effectivement, si tant est que cette eau, effectivement, qui tombe sur la ville, est valorisée et pas juste évacuée et passée à l'aval pour en faire éventuellement un risque plutôt qu'une ressource. On a, par exemple, sur la base de l'Argent dans le Var, effectivement, des inondations énormes, alors qui sont liées, effectivement, aux crues naturelles de l'Argent, mais aussi au fait que l'imperméabilisation des sols n'est pas gérée et que, du coup, la ville devient l'ennemi de la gestion de l'eau. Alors que, véritablement, la ville, par sa technicité et par, effectivement, son territoire, peut être, au contraire, un formidable lieu de valorisation de la ressource en eau.
Mm-hmm. Monsieur Bell, vous êtes...
Non. Monsieur Bordelais, je m'en prie. Oui, pour prolonger ce qui est dit, l'acte de gestion, il ne se pose pas en milieu naturel. Donc, en fait, c'est bien parce qu'on a une concentration humaine, parce qu'on a une concentration d'aménagement, que l'acte de gestion se pose. Donc, en ça, la gestion, elle est plutôt consubstantielle, je dirais, à cette ville. Sinon, un bassin versant naturel n'appelle pas une gestion en elle-même. Et quand on regarde aussi cette concentration humaine, c'est aussi une concentration de richesse qui nous permet d'avoir des réalisations quand même extraordinairement importantes. Et pour prolonger ce que disait Madame Huot, toute la partie eau usée, quand on voit la réalisation de la station de Versailles, je le dis devant le président du Smarov qui n'est pas très loin, on voit quand même une réalisation extraordinaire qui va donner vie à une petite rivière, le rue de Galie, tout près d'ici, et qui peut se faire grâce à la richesse et aux moyens qu'on mobilise. Effectivement, la question se pose sur d'autres compartiments de l'eau, une fois qu'on a traité l'eau usée, On vient de parler d'eau pluviale, je ne reviendrai pas, mais on peut aussi s'interroger sur la gestion des rivières, du milieu aquatique, du vivant qui se trouve lié à l'eau.
Alors, la ville, amie de l'eau.
La ville, amie de... je me rapprocherai de ce que disait madame sur enfin, l'avantage et l'inconvénient qu'il y a effectivement à gérer la problématique de l'eau en ville. Mais je crois qu'avant tout, la problématique de l'eau en ville, c'est la question de la gouvernance et notamment la question du lien entre la ville elle-même, qui a ses avantages et ses inconvénients, et son territoire qui l'environne. L'un sans l'autre ne peut pas fonctionner aisément.
À ce titre, alors, quelle est la bonne échelle de planification quand on parle de gestion de l'eau ?
En France, vous savez, on est très attaché à la notion de bassin versant. Alors, quand vous avez dit ça, vous avez tout dit et rien dit, puisque le bassin, il peut être grand, c'est
ça,
le
ça
bassin.
Ça fait un plan en deux parties, c'est parfait.
Comment ? Voilà, ah, exactement. Et puis la troisième partie, on va se dire qu'il va falloir trouver des acteurs et une bonne gouvernance. Mais, non, mais vous avez une approche par, on va dire, par petit bassin versant. Mais ensuite, quand on parle différemment de l'échelle, si on parle de rivière, si on parle d'inondation, vous travaillez à une grande échelle, sinon ça n'a aucune signification, ou si vous travaillez pour optimiser votre eau pluviale, quitte à la réutiliser localement, on parlait tout à l'heure d'agriculture ou de multifonctionnalité, où là on va raisonner plutôt à l'échelle du quartier, voire à l'échelle du projet, si vous rentrez sur des toitures végétalisées ou autant de solutions. Donc finalement l'échelle, elle est en fonction de la problématique eau en lien avec la ville qu'on va traiter et ne va pas être une échelle en tant que telle, me semble-t-il.
Alors effectivement, on est interpellé, dans la première table ronde, on évoquait la planification fine et tenue dans le temps. En fait, j'ai envie de dire, c'est une question simple et complexe à la fois, parce que d'abord, de quoi parle-t-on ? Comme disait Cyril Portalès, de quelle planification parle-t-on ? Et de quelles échelles parle-t-on ? Est-ce que c'est des échelles spatiales, temporelles ? Est-ce que c'est une planification thématique ? On voit bien, effectivement, pour le coup, qu'il n'y en a pas qu'une. Et j'ai envie de prolonger la question quelque part. Y a-t-il une échelle pertinente ou y a-t-il pas plutôt une combinaison multi-échelle qui doivent s'imbriquer, se compléter les unes les autres en fonction de la planification souhaitée avec une logique temporelle et une logique spatiale ? Alors une fois qu'on a dit ça, on pourrait dire que c'est très conceptuel, mais de façon très simpliste et très... par l'exemple, on peut très bien se dire, prenons l'exemple du Grand Paris. Aujourd'hui, Grand Paris dit on va redéployer le logement et recréer le Grand Paris. Donc en fait, la planification, elle va être liée au niveau spatial et à la gouvernance. On voit bien que c'est la question centrale, c'est la gouvernance. D'ailleurs, on parle maintenant dans le Grand Paris du Grand Paris de l'eau. C'est pas innocent, justement, se dire quelle est la planification de l'eau à l'échelle du Grand Paris. Comment demain on va alimenter les populations du Grand Paris à partir de ressources en eau et comment on va assainir et comment on va gérer le pluvial. Donc en fait, c'est bien cette logique d'imbrication de différentes échelles et j'ai envie de dire, peut-être se poser la question à l'envers, quelles sont les limites qui définissent une échelle de planification ? Quelles sont les vulnérabilités et qui va définir une échelle de planification ? C'est-à-dire que toute planification, elle a ses limites. Quand je prenais l'exemple du Grand Paris, on dit qu'on va faire du logement. Quelle est la limite, en fait, aujourd'hui, de la construction de demain ? Ben, c'est l'approvisionnement en matériaux. Et là, on se rend compte que la Seine, elle a un port au Havre, et comment on va faire pour acheminer les matériaux ? En fait, la limite de la planification de la construction du Grand Paris sur un horizon de 20 ou 30 ans, ben, finalement, ça va être la limite de, a-t-on, quelle est la planification derrière de l'approvisionnement en matériaux ? Donc, pas ricocher, j'ai envie de dire... Effectivement, il n'y a pas vraiment de bonne échelle, il y a en fait une combinaison d'échelles qui doivent s'imbriquer et être cohérentes dans une vision, effectivement, pour le coup, tenue, fine et gouvernée.
Alors, il y a un sujet qui nous occupe dans cette table ronde, c'est les expérimentations du zéro phyto. Ça a même été rappelé en introduction générale. Et comme je n'y connais rien, je serais ravi que l'on me parle de ces expérimentations pour les décrire et en connaître le contenu, certes, mais également les performances.
Quand on parle alors zéro phyto en ville, parce qu'en fait, le sujet des phytosanitaires est un sujet on le sait, très, très médiatique, très important. Généralement, on cible le sujet sur le monde agricole. Et ce n'est pas illogique parce que le principal utilisateur, c'est le monde agricole. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi la partie en ville. Et se développe aujourd'hui, et ça marche bien, un certain nombre d'initiatives pour passer dans la gestion des espaces verts des villes. Et si demain, comme l'intitulé de ce forum y appelle, finalement, il y a plus de vivants dans la ville, qui dit vivant dit maladie. Comment on va traiter ces maladies dans le végétal? Est-ce qu'on va y amener des pesticides en plus, ou est-ce qu'on va mettre en place des modes de gestion pour le faire sans pesticides? Donc un certain nombre d'initiatives existent. La ville de Versailles est très impliquée. Nous avions eu d'ailleurs le plaisir d'accueillir l'adjointe au maire de Versailles lors d'une conférence à l'Agence de l'eau pour nous présenter les actions conduites par la ville de Versailles, mais elle n'est pas seule, dans lequel les municipalités se réinterrogent sur leur processus de gestion de leurs espaces verts pour passer à aucune utilisation de phyto ou aucune, sauf cimetière, qui est un lieu symbolique où un cimetière mal entretenu est visiblement très mal apprécié par la population. Et donc, substituer des méthodes, passer alors par des désherbeurs thermiques, par exemple, réfléchir, et quand au niveau de l'aménagement urbain lui-même, dès le départ, parce qu'en fonction du mobilier urbain que vous installez, vous avez une capacité ou pas d'intervenir de manière mécanique pour nettoyer des bordures de trottoirs, c'est plus facile si elles sont un petit peu en pente, si elles sont anguleuses, si vous, à chaque arbre, vous mettez des parements, vous ne pouvez pas intervenir de manière mécanique, etc., etc., un certain nombre de choses qui donc doivent être pensées globalement. Et quand on appelle à plus de vivants dans la ville, ce qui a beaucoup d'attrait, il faut s'interroger à cette gestion des maladies du vivant, d'une manière à ne pas apporter de nouvelles pollutions qui n'existaient pas jusque-là.
Ah, c'est un sujet général qui est que toute solution devient un problème, qui par la suite pourra redevenir une solution.
Ça peut être évité.
Ça peut être prévenu. Alors, monsieur Laverne, plus généralement, vous considérez qu'on passe de la révolution industrielle à la révolution naturelle dans la gestion, la production des villes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, c'est un peu une formule, mais c'est vrai qu'on a tendance à nous rappeler souvent que la planète est bleue. Moi, je n'ai pas vérifié, mais pourvu que ça dure.
Elle est verte pour notre association, regardez, là, les petits trous bleus. Voilà.
C'est vrai. Mais donc, notre planète bleue montre bien, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, la part qu'on donne, l'importance qu'on donne à la question de la gestion de l'eau. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'eau était naturelle, et c'était naturel qu'elle le soit. Et puis, petit à petit, effectivement, avec le développement notamment d'une certaine pensée urbaine, et avec aussi effectivement la période industrielle, on a eu cette idée que l'eau était une aubaine, une bonne aubaine hein, finalement, pour effectivement régler un certain nombre de problèmes qu'on ne voulait pas régler ailleurs et qu'on considérait régler à partir du moment où on l'associait à des tuyaux et on envoyait l'eau ailleurs. Et donc l'aubaine, en deux mots, hein, l'aubaine qui gérait finalement d'une certaine manière assez mal la question urbaine. On a de nouveau changé de temps, et maintenant effectivement cette idée nouvelle est que l'eau peut retrouver une place et un rôle dans la ville qui même redonne un sens et une valeur nouvelle à la ville. Et cette révolution naturelle, entre guillemets, c'est cette idée que à partir de l'eau, à partir des solidarités nécessaires qu'impose la gestion de l'eau, à partir des continuités nouvelles qu'elle peut permettre, cette gestion de l'eau alternative, on est capable de raviver la ville. On est capable, effectivement, d'imaginer que la ville n'est pas forcément réduite au modèle qui a prévalu jusqu'alors, où finalement la ville est dense, la ville est étanche, et on règle ailleurs la question de sa porosité, la question de sa fertilité. On en arrive à un moment où la ville peut inventer un nouveau modèle. Et ce moment est intéressant puisqu'il repose deux questions d'échelle. Et on est toujours dans ce rapport interscalaire entre la ville dense, c'est-à-dire effectivement la ville dense où chaque mètre carré compte, et on peut développer sur chaque mètre carré des solutions alternatives où l'eau ne devient plus un risque et une contrainte, mais un produit et une ressource. Et donc là, on est véritablement sur les solutions qui étaient évoquées tout à l'heure, hein, sur ces agricultures d'hyper-proximité, presque sur une urbiculture, c'est ce que j'avais envie de dire tout à l'heure dans le débat précédent, c'est-à-dire qu'à force d'être intra-urbain, on devient presque effectivement dans l'urbiculture, et d'ailleurs ça présente un risque, l'idée que la ville pourrait toute seule régler sa question et ne plus être solidaritaire de son territoire. Donc cette idée de l'eau dans la ville pose aussi une autre question d'échelle, qui est celle effectivement de la ville diffuse, de la ville qui, par ses moyens et par le nombre qu'elle représente, a une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, on a longtemps dit qu'il fallait préserver les terres agricoles, mais peut-être qu'on arrive à un moment, surtout quand on entendait la première partie du débat tout à l'heure, où c'est finalement l'agriculture qui va sauver la terre. Il ne faut plus sauver les terres agricoles, mais l'agriculture doit sauver la terre. Et on ne doit pas imaginer, de la même manière que la ville ne peut pas trouver des solutions toute seule à l'intérieur de son territoire sur la question de la gestion de l'eau, elle ne peut pas trouver non plus, et on a bien dit effectivement que c'était des solutions tout à fait marginales pour l'instant, effectivement l'idée qu'à l'intérieur de la ville, on puisse retrouver les lieux de production d'une agriculture nouvelle pour la ville. Parce que véritablement, je pense que la question de l'eau oblige aussi à réinventer le rapport de la ville avec son territoire et oblige la ville à réinventer aussi un projet pour son territoire. On a à Versailles le marché de Versailles, très connu, et puis on a la plaine de Versailles, très connue. On aimerait qu'un jour, peut-être, sur le marché de Versailles, les producteurs de la plaine soient portés par les consommateurs du marché. Et donc voilà, ces rapports nouveaux qu'on peut réinstaller entre territoire et ville, au travers de la gestion de l'eau, sont vraiment des hypothèses nouvelles pour une ville plus durable, comme était le titre du colloque.
Oui, je prendrai comme exemple, donc pour poursuivre, pour aller dans le sens de ce que vient de dire monsieur, donc je prendrai comme exemple évidemment le territoire sur lequel je sévis, donc le Sciars et la ville principale de ce territoire qui est la ville de Corbeil-Essonnes. Donc nous avons la chance d'être traversés par 7 km 500 de rivière Essonne et bordés par 5 km de Seine, ce qui implique évidemment que notre commune s'intéresse à l'eau de manière significative. Elle s'appuie sur le syndicat Sciars, donc qui gouverne les 80 km de rivière Essonne. À la fois sur le département de l'Essonne, le département de Seine-et-Marne, le département du Loiret, et donc en même temps une partie de l'Île-de-France et de la région centre.
Je vous coupe en vous taquinant. Oui. Vous dites gouverner la rivière Essonne. Dans tous ces problèmes de gouvernance, qu'est-ce que ça veut dire gouverner la rivière ?
Justement, je voulais parler de la notion de gouvernance en évoquant le fait que c'était très certainement le problème le plus important en matière d'eau. L'eau est. Il y a sur le territoire une vision de l'eau qui peut être négative. C'est les eaux de ruissellement, c'est les eaux de pluie, c'est les eaux qui gênent, finalement, qui se polluent ou non. Et puis, il y a l'eau qui peut être perçue de manière positive, le rapport à la baignade ou à l'esthétique, qui est la rivière et les plages lorsqu'il y en a. Les deux sont étroitement liés. La qualité de la rivière dépend étroitement donc de la qualité des traitements que l'on fait sur les eaux pluviales notamment, et puis aussi sur les eaux usées. Et donc, il nous paraît évident qu'il doit y avoir un lien de gouvernance entre la rivière et sa qualité et son utilisation et le traitement des eaux pluviales et des eaux usées. C'est la raison pour laquelle notre choix politique dans notre région a été d'intégrer le dispositif et de faire en sorte que le gestionnaire de la rivière soit également le gestionnaire des assainissements, également le gestionnaire des aspects pluviales. Et nous tendons donc à faire en sorte que notre territoire soit gouverné, que la gouvernance politique, donc le syndicat, soit et que sa carte soit la plus proche possible de celle du bassin versant, qui est le sujet principal donc du traitement de l'eau. Voilà.
Rebondir sur la question de naturalité et d'urbanité que vous posiez, parce que ça me
posait dans le petit papier qu'il a eu une question qui était comment réconcilier urbanité et naturalité en ville.
C'est ce que vous venez de quelque part de la question que vous évoquiez, Monsieur Laverne, parce qu'elle me paraît vraiment au cœur du sujet, parce que bien souvent on aborde l'eau avec de manière un petit peu sectorielle. Par exemple, moi je travaille à l'Agence de l'eau, on est un établissement public de l'État, on est sectoriel dans le domaine de l'eau. Et on connaît très bien les acteurs de l'eau, le Sciars à Corbeil, etc., le Smart Office, enfin un certain nombre de partenaires de l'eau. Lorsqu'on rentre dans le domaine de la ville, on a une difficulté parce que pour dépasser le domaine de l'eau, quand on passe au domaine du vivant, le vivant fait souvent peur. On me rappelle ce livre « La peur de la nature » de je ne me rappelle plus exactement qui, mais la nature fait souvent un petit peu peur, et la ville, c'est souvent un peu dominer la nature. On s'extrait de la nature et ça paraît quelque chose, voilà, on y est arrivé. Et derrière, on oublie donc un certain nombre de cycles, dont le cycle de l'eau, et on perd un certain nombre de choses. Et là, pour faire le lien avec le débat précédent, se réapproprier le vivant au cœur de notre ville, c'est se réapproprier finalement avec modestie un certain nombre de fonctionnements cycliques, dont le cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau, bon, on a parlé d'eau potable, d'eau usée, on parle de rivières, on peut parler aussi par extension de zones humides qui se marient très bien. Les zones humides, on peut la voir comme un repère de sorcières qui font peur aux petits-enfants et d'un tas de petites bêtes au nom fort compliqué. C'est aussi un parc urbain. Je me rappelle avoir inauguré il n'y a pas longtemps avec la maire de Palaiseau une zone humide en plein cœur de Palaiseau. J'avais une photo, mais on ne la passera pas, mais c'est au cœur de Palaiseau, qui est en bord de l'Yvette, dans laquelle on a pu, grâce à cette action, à la fois offrir aux personnes de la ville un parc urbain, à la fois en coteau et en bord de rivière, et à la fois rétablir des berges qui ne sont pas faites avec du tunage bois, une vision verte, mais qui n'est pas de vivant, mais avec une vraie berge touffue, chevelue, biologique, qui permet d'apporter du vivant au cœur de la ville, et sans dommage, et au contraire, même avec des aménités pour la population locale. Donc ce retour sur le vivant ne doit pas nous faire peur et se le réapproprier, tant dans la partie domestiquée, je dirais, qui est la partie agricole, que dans la partie plus naturelle, qui peut prendre le chemin de nos rivières, par exemple.
Avec votre illustration, vous répondez à une question qui était posée en SMS. Pourquoi on ne crée pas de zones humides en ville dense ?
Alors, on crée
des... On en crée la preuve.
Alors, d'une part, enfin, on en crée, l'Agence de l'eau finance largement les acquisitions de zones humides à 80%, donc je le dis pour les élus présents dans la salle, donc là on soutient largement cette action. Ensuite, faut-il qu'elle soit portée par la collectivité locale avec une certaine détermination. Je pense par exemple à Meaux, où on a créé une zone de baignade avec une zone humide, mais ça a été une action d'une dizaine d'années, donc c'est aux portes de Meaux, dans une opération de rénovation urbaine, où vous avez maintenant un certain nombre de personnes qui vont se baigner dans la Marne, vous avez donc des zones humides, ça sert aussi un peu d'expansion en termes d'inondation, donc c'est un peu la quadrature du cercle, et tout ça à côté d'immeubles, avec une zone d'aménité. Je vais exprimer pas les eaux, donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire, encore faut-il que la municipalité, pendant plusieurs années, s'engage à faire partir les occupations illégales, ce qui pose toujours des problèmes sociaux, etc., etc., et cette continuité. Mais il y a des moyens qui existent, en tout cas la chance de l'eau, de ce point de vue-là, aide, et il y a des actions significatives.
Oui, c'est vraiment intéressant de constater en permanence comment cette question de l'eau rejoint la question de nature et qu'on est toujours en train de jongler entre les deux notions. Eau d'abord, on est parti sur l'eau risque ou éventuellement l'eau contrainte de gestion zéro phyto, et on rejoint tout de suite et très vite cette idée de nature en ville. Et finalement, aujourd'hui, l'eau permet effectivement de dépasser sans doute l'acceptation habituelle de l'idée de nature qui était la nature est un cadre de vie, pour arriver à plutôt embrasser l'idée que la nature en ville est un nouveau mode de vie. C'est-à-dire que, comme si d'un côté il y avait la vie et qu'ensuite il faudrait y mettre un cadre, et que la nature pourrait être un cadre assez acceptable pour l'idée de la vie. Or, la nature, c'est la condition de la vie. Et donc, cette idée de nature en ville, elle réinterroge profondément la question de la ville, parce qu'elle réinterroge le mode de ville. C'est-à-dire que nature en ville, c'est pas juste créer un cadre agréable, même si c'est important de le faire, mais c'est surtout mettre en place des conditions de vie supportable et durable, c'est le thème du colloque. Et donc, du coup, cette question de la gestion de l'eau en ville, pour nous, c'est du pain béni, pour nous concepteurs, parce qu'effectivement, ça pose aux gestionnaires des questions de gestion, c'est-à-dire comment on ne met pas d'intrants, comment est-ce qu'on fait zéro phyto dans la ville. Mais nous, concepteurs, ça nous oblige aussi à nous poser la question, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une nature en ville qui permette de mettre zéro phyto. Alors, c'est des questions de pédagogie, parce qu'il faut expliquer effectivement que des modes de gestion alternative, de l'eau d'une part, ou des modes de gestion alternative de la nature en ville, produisent des idées de nature qui sont un peu différentes de la nature léchée dont on a hérité du 19e et du 20e siècle, avec cette idée que la nature serait un décor. Si la nature est un milieu en ville, ça veut dire qu'il faut effectivement installer des conditions de milieu pour la nature en ville. Et habituer l'homme à l'idée que la ville est un milieu. Et donc, ça rejoint cette idée de la dimension écosystémique de la ville, où, y compris dans le mètre carré, chaque mètre carré de la ville se pose la question de l'écosystème, mais aussi, également dans la relation qu'entretient la ville avec son territoire, se pose la question de l'écosystème. Donc, moi, je suis assez partisan de l'idée de dire que
la ville ne se réduit pas à la portion congrue de son territoire construit, mais embrasse l'ensemble des milieux et des enjeux nécessaires à la reproduction d'espèces urbaines. Et elle est importante, la reproduction de l'espèce urbaine. On en est tous, on sera 80% d'urbains dans quelques années. Et donc, du coup, cette question, elle nous projette notamment sur des projets urbains très précis, comme par exemple les terrains Renault à Boulogne-Billancourt, où nous sommes paysagistes en chef, à cette idée qu'on peut démontrer que, y compris dans la ville dense R+7 pour Boulogne, le modèle de ville où le modèle de l'espace public serait juste un modèle régnant à partir de la voiture, l'automobile au centre, les stationnements, les trottoirs, les piétons sur le côté et enfin les habitants derrière, on peut réinventer un espace public qui ne soit pas sur le modèle automobile, mais qui soit réinventé à partir de l'idée de l'eau. Donc l'eau, pour nous, c'est une forme d'herbe ressource pour réinventer effectivement un mode de ville où les comportements et même les modes de vie, les modes de consommation des urbains vont changer. Alors on est précisément dans la réponse à la question du SMS qui était on invente en permanence aujourd'hui des milieux humides en ville dans le fait qu'on n'imperméabilise plus les sols, qu'on s'oblige à gérer l'eau effectivement à la parcelle dans la ville, à la rassembler des espaces publics et considérer que l'eau en ville n'est pas un ennemi de la ville, mais au contraire une ressource pour y faire pousser une nature qui a besoin de cette eau précisément pour pouvoir y vivre. Donc voilà, on est vraiment sur cette idée que le cycle de l'eau réinvente même le mode de ville, dépassant le cadre de vie pour inventer un mode de vie.
J'aimerais revenir un peu sur les questions de gouvernance autour de l'eau. Alors vous aimez bien les jeux de mots là. Il y a aubaine, on peut faire à l'inverse, il y a silo. Je pense à ça parce que vous évoquiez le fait que quand on est dans une agence de l'eau, on s'occupe de l'eau. Et je sais que Marie-Christine Houot est assez soucieuse du fait qu'on dépasse un peu nos approches en silo.
Alors effectivement, je voulais rebondir, et la question s'y prête bien, sur le mot révolution industrielle et révolution naturelle, puisque pour le coup, c'est une approche silo. Pourquoi on passe d'un mot à l'autre ? Juste peut-être 30 secondes d'histoire. Juste 30 secondes d'histoire. Le petit cycle de l'eau a été très bien géré depuis la nuit des temps. Il faut quand même rappeler qu'au début du siècle, on a canalisé l'eau. Pourquoi ? Pour répondre aux problèmes de maladies. Aujourd'hui, malheureusement, l'histoire se répète et la Terre est ronde. Et ce qui se passe aux Philippines est un éternel recommencement de ce qu'on a vécu, nous, dans les années 1900. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord canalisé l'eau. Donc on prend la ressource, on la traite, on l'achemine jusque chez l'habitant, parce que c'était une question sanitaire. Et il fallait donner en quantité l'eau. Et ça permet de s'affranchir du risque sanitaire. Et ensuite, quand on tire ces chasses d'eau et qu'on permet aux gens de vivre, on a besoin d'eau. Et l'actualité nous le rappelle de façon assez cruelle. On assainit l'eau et on le renvoie à une station d'épuration qui ensuite le renvoie au milieu naturel. Ça, c'est le petit cycle de l'eau. Ça, en France, on sait très bien gérer, en Europe aussi. Donc, quelque part, ce petit cycle de l'eau, on est arrivé à la saturation. On fait très bien.
Donc, la question, c'est comment on fait avec l'eau non canalisée.
Et maintenant, comment on fait ? Donc le globe est un état, enfin, sur la planète, en fait, globalement, on a toutes les échelles temporelles. Aujourd'hui, on voit cruellement qu'aux Philippines, quel est le problème majeur ? C'est le problème sanitaire, du risque des maladies par l'eau. Donc, il faut amener de l'eau. Donc, on va recréer de la canalisation à l'autre bout de la planète. Chez nous, ce n'est pas le cas. On a cette chance, en France et en Europe. Donc, en revanche, on est sous, j'ai envie de dire aujourd'hui, deux nouveaux aléas dans nos pays. Un, l'aléa climatique, on va sans doute en parler à la prochaine table ronde. Qui dit aléa climatique, dit variabilité, on le voit bien avec les événements. Un coup, il y a des gros orages, un coup, il y a 6 mois de sécheresse. D'ailleurs, ça me repose la question sur la première table ronde, sur aussi le lien entre agriculture et le choix du modèle par rapport à l'eau,
d'où la logique. Ça n'aura pas d'impact si les frais sont que dans des parkings.
Non, tout à fait, mais il faut quand même alimenter en eau pour que ça pousse, d'où la logique de cycle court. Qu'à un moment, il faut se déconnecter de la croissance, il faut découpler la croissance, découpler le climat avec, finalement, la gestion de l'eau. Et donc, on a cet aléa climatique, et la deuxième aléa, c'est ce qui a été dit et en fil rouge, c'est qu'on est dans la rareté des ressources avec une sururbanisation des populations. Donc la ville ne fait que s'étendre. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Donc on ne va pas tirer à l'infini des canalisations. C'est pas pertinent. D'où la logique, maintenant, de rupture, de dire... On a fait la révolution industrielle, on sait canaliser l'eau. Maintenant, comment on fait pour l'eau qui n'est pas canalisée ? C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, nous dans nos métiers, la révolution naturelle. Donc, à ciel ouvert, l'eau qui tombe du ciel, qui tombe sur les parcelles, et on retombe sur les logiques de planification et d'échelle, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il y a des solutions. Les zones humides, les aménagements urbains. On voit aujourd'hui en France, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que les grandes villes de France requalifie les berges. Ce n'est pas innocent. La requalification des berges. Orléans s'est lancé là-dessus. On sait que quand il y a une crue à la Loire, personne ne va se balader le long des berges à Orléans, puisque ça fait zone de tampon d'inondation. Là, on a parlé de Bordeaux. Bordeaux requalifie aussi son bord de Garonne. On parle du Grand Lyon. On va en parler sans doute après. On voit bien que la rivière et le fleuve au cœur de la ville, finalement, c'est ce qui n'est pas canalisable, finalement, puisque la ville est venue en emprise sur cette... Et donc, effectivement, moi, je voudrais effectivement bien insister là-dessus, et je crois que c'est un des enjeux, finalement, qu'on s'est créé dans l'association du vivant et la ville, c'est de se dire, on est tous des experts de nos domaines. Et quand on décloisonne et quand on voit la logique... d'une eau sur le grand cycle de l'eau qui n'est pas canalisée, on est obligé de se parler, de se dire tiens, nous on est spécialiste de l'eau, mais comment on fait là? Comment on fait que le sol, on puisse le revaloriser? Il a peut-être une nouvelle fonction qu'on a oubliée, parce qu'on a posé la ville dessus, mais on a oublié que le sol était fertile, que le sol avait un rôle d'infiltration. Voilà. Et on a aussi oublié que le végétal avait aussi un rôle. Parce que quand on canalise l'eau, on le traite et on traite très bien. Et on sait traiter tous les types d'eau. Aujourd'hui, une grande ville d'Afrique nourrit ses habitants à partir de l'eau usée traitée. Je ne suis pas encore sûre qu'on est prêt en France, dans les mentalités sociales, à accepter ça. À faire en sorte que l'eau qui sort de nos chasses d'eau, qui soit traitée, ensuite réarrive à l'eau du robinet. Et dans des pays monde, à Singapour, ça se fait. À Singapour, parce qu'ils ont compris que c'était aussi insulaire, qu'il y avait un manque d'eau, ils boivent, quelque part en court-circuitant, ils boivent l'eau des chasses d'eau, mais traitée. Donc la question, elle n'est pas là. La
en
question,
tout cas, c'est une illustration
comment...
très concrète de circuit court, ça, voilà.
Voilà, tout à fait. Donc comment on gère, en fait, le grand cycle, comment on gère le grand cycle, et comment on fait que, ensemble, parce qu'en plus, on sait bien qu'aujourd'hui et demain, on aura moins de moyens, déjà financiers, et comment on va gérer les interfaces. Et je pense que là, il y a une marge de manœuvre, à la fois économique, à la fois d'opportunités, de nouvelles solutions, de nouveaux développements.
Ouais. Hein, et c'est bien l'aubaine pour dépasser les silos.
C'est bien exactement, voilà.
C'est bien l'aubaine. On passe un petit temps quand même sur les eaux pluviales. Voilà, c'est un sujet qui nous réunit, qui tombe sur le sol, les toits. Quelles sont les innovations alors ailleurs, les innovations imaginées? Qu'est-ce que l'on peut faire de mieux?
Alors déjà, la première, entre guillemets, pas innovation, mais en tout cas... réflexion.
J'ai une question pour vous, la SMS. Est-ce que l'Agence de l'eau gère des zones humides?
L'Agence de l'eau, en tant que propriétaire, a une toute petite zone humide sur la Bassée qu'elle a acquise pour libérer des terrains sur des captages dans des zones donc préservées. Mais c'est marginal. L'Agence de l'eau, en revanche, intervient sur plusieurs milliers d'hectares, je ne sais pas le chiffre exact, soit pour financer des animateurs, soit pour financer des opérations de restauration de zones humides. Et donc, en matière de zones humides, l'Agence de l'eau a fortement développé sur ces 10 dernières années son action.
Voilà, vous avez fait un heureux en réponse à sa question.
Qui, j'espère, est assez précise. Voilà. Pour rebondir sur les eaux pluviales, déjà, quelles eaux pluviales? Parce que bien souvent, on pense que les eaux pluviales, ce n'est pas d'hier. D'abord, parce que les eaux pluviales, ça ruisselle et ça crée des inondations.
C'est depuis le déluge.
Enfin, bon, c'est depuis le déluge, voilà. Alors à l'époque, on a trouvé une solution radicale, on est parti en bateau. Mais si on veut rester dans notre ville, on a la partie eau qui crée des inondations. Et on a une partie des eaux pluviales qu'on ne voit pas, celles qui tombent tous les jours, en récurrence, 2-3 mois, la petite pluie qui tombe. Et celle-là, pour l'Agence de l'eau, elle est très importante parce que c'est elle qui va amener un flux de polluants à un moment où le milieu récepteur n'a pas reçu beaucoup d'eau, mais... donc il y a peu de capacité de dilution, mais le premier flux va balayer de grands nombres de surfaces. Je vais vous donner un exemple. Cette année, on a eu par exemple des accidents de stations d'épuration en amont de Paris. La Seine était très haute, c'était au printemps. Eh bien, c'est passé à peu près, d'autant qu'il y avait des prises d'eau à l'aval. On n'a pas trop... Ça s'est vu, mais ça s'est vu de manière raisonnable parce que la Seine était haute. Inversement, quand vous avez une petite pluie, et là j'insiste auprès des aménageurs présents dans la salle, ces petites pluies, il faut aussi penser à les gérer, même si extérieurement, elles ne créent pas de problème parce qu'elles amènent un flux de polluants très important au milieu à un moment où, justement, on a fait d'énormes efforts, comme le disait Madame Huot, pour traiter les chasses d'eau, etc. Donc, toute la partie pollution ponctuelle. Et donc ce flux de deuxième ordre pluvial est important. Et le lien avec la question du vivant, c'est que cette eau, en créant de la porosité dans la ville parce qu'on y implante du vivant, on va pouvoir la fixer, on va éviter qu'il y ait une concentration de la pollution, parce que finalement la ville, qu'est-ce que c'est dans une gestion traditionnelle de l'eau pluviale ? C'est une gigantesque impluvium pour lequel on va concentrer des pollutions diffuses en faible pression à un moment donné, enfin une faible pression polluante, mais vous avez un petit orage, et là on concentre tout dans des points de rejet ponctuels. Donc cette diffuser cette perméabilité, grâce justement à l'implantation de plus de vivants dans la ville, réduit aussi la question de la pollution. Voilà, enfin, par rapport à l'eau pluviale, sortie de l'eau pluviale, inondation. J'insiste parce que ce n'est pas quelque chose qui est souvent très présent dans les esprits.
Sur les eaux pluviales, alors.
Oui, je voulais avant cela rappeler que certes nous connaissons parfaitement la gestion du cycle court et on sait le faire, mais ce n'est pas parce qu'on sait le faire qu'il est fait effectivement dans les faits, pour faire des rimes, merci. Et donc la question, c'est encore une fois, j'en reviens à la question de la gouvernance et à la nécessité de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour notamment garantir les bons branchements des habitations, les bonnes pratiques donc en matière de gestion de l'eau à la fois usée et pluviale. L'évidente intervention des documents d'urbanisme donc dans le processus, et notamment le PLU, qui nous paraît essentiel. Alors en ce qui concerne les pluviales, la gouvernance est est à l'évidence l'élément le plus important, puisqu'il permet donc de déterminer déjà les bons critères de. Je vais passer sur ce sujet. Je vais vous passer la parole.
Je reprends la parole. Très bien.
Merci beaucoup.
Sur les eaux pluviales, j'en ai strictement aucune idée. Merci. En revanche, moi, c'est singing in the rain. Mais Monsieur Laverne, vous pensez que par l'eau, j'imagine même que par l'eau pluviale, on peut réenchanter l'espace public.
Oui.
C'est pour ça que je pensais à singing in the rain en passant. Mais bon.
C'est vrai. Réconcilier urbanité et naturalité, c'est ce que nous a encouragé à faire François de Mazières au début de son introduction, effectivement, démontrer que partout en ville, effectivement, ce nouveau rapport entre la nature et la ville pouvait effectivement réinventer la ville. C'est effectivement pour nous une chance importante, parce que pendant longtemps, donc, dans la ville, la nature était un espace vert. Bon, on gérait l'espace vert, c'était une contrainte, ça avait des coûts. D'ailleurs, il disparaissait petit à petit parce qu'effectivement, il ne résistait pas aux coûts qu'il induisait. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'avec l'eau, on pouvait redonner un sens et une valeur à l'espace public, et notamment à l'espace naturel en ville, et lui donner même un rôle, par sa fonction hydraulique, un rôle absolument indispensable qui rendait du coup indiscutable sa place dans la ville. Et donc l'espace vert n'est plus un espace d'accompagnement, une espèce de baume qui laisserait passer qui ferait passer le projet urbain, mais véritablement un espace de nature indispensable. Et donc à partir de l'eau, on peut réinventer l'espace public de la ville et donc réconcilier, y compris redonner aussi une dimension sociale à l'espace public de la ville. Je m'explique. C'est-à-dire que l'eau oblige d'abord à de nouvelles solidarités entre public et privé. Donc ça pose la question de la valeur de l'espace public, mais aussi la question de la valeur publique de l'espace privé. L'eau réinterroge cette solidarité, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, quand on travaille sur un quartier, un nouveau quartier urbain, se pose la question de l'eau qui tombe sur l'immeuble, qui arrive dans les lieux privés, qui ensuite rejoint l'espace public, et enfin, finalement, rejoindra la mer. Alors, on nous avait longtemps laissé croire que, de toute façon, jusqu'à la mer, l'eau privée et l'eau publique n'avaient pas à se rencontrer, et qu'éventuellement, bon, on ignorait, mais peut-être elles se rencontraient en mer, l'eau publique et l'eau privée. Donc, on avait une espèce de séparation des responsabilités et des biens qui faisait que on avait une difficulté énorme à envisager l'idée que l'eau qui arrive sur un espace privé puisse venir ensuite dans un espace public et fonder un projet donc d'écosystème et de solidarité entre public et privé. Aujourd'hui, l'eau qui tombe sur un toit du quartier de Boulogne descend dans les jardins, alimente les jardins, et éventuellement, quand pour une occurrence exceptionnelle, l'événement pluvial est trop important, cette eau des jardins privés rejoint l'espace public
qui ont des jardins également en creux, et rejoint finalement un parc qui finalement sert de tampon pour éventuellement rejoindre la Seine si besoin était. Mais on a réussi, si vous voulez, à partir de la gestion de la goutte d'eau, à réinventer un fonctionnement urbain qui, au-delà même de cette dimension hydraulique, réintroduit une fonction naturelle dans la ville, hein, donc le jardin privé qui travaille en solidarité avec le jardin public, qui lui-même rejoint le parc et qui rejoint la Seine. Et puis, au-delà, effectivement, et grâce à cette idée de cette obligation de solidarité entre public et privé, on peut réinterroger d'autres solidarités de fonctionnement, de paysage, d'usage entre public et privé. On oblige, finalement, grâce à la question de l'eau et en rejoignant l'idée de nature en ville, on oblige la ville à retrouver une perméabilité, une porosité. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'îlot fermé et sur l'idée que peut-être l'espace public serait juste l'espace servant de l'intérêt privé et du domaine privé, mais qu'au travers de la gestion de l'eau, l'obligation d'être poreux sur le sol et perméable dans l'espace de la ville oblige à réinventer, y compris la fonction et le fonctionnement de l'espace urbain. Et donc, ce projet-là démontre qu'à partir de la gestion de l'eau, l'îlot urbain privé doit rester ouvert, doit entretenir des continuités paysagères, des continuités de vue, des continuités d'usage avec l'espace public, pour véritablement, à partir de la fonction hydraulique, réinventer effectivement ce fonctionnement urbain. Et c'est vraiment un délice, cette idée, parce que ça permet de démontrer que cette idée de nature en ville n'est pas réservée à des quartiers privilégiés, mais véritablement peut s'installer, y compris dans la ville dense. Et j'ajouterais juste, pour ne pas être trop long quand même, que cette fonction hydraulique ou cette dimension de la nature en ville peut avoir une vocation intégratrice des quartiers défavorisés. C'est-à-dire que souvent, les quartiers défavorisés sont à la périphérie des villes. Donc d'abord, ils sont loin du centre, ils sont pédalisés de cela, ils sont dans des espaces verts qui sont difficilement gérés, donc qui sont effectivement, ils ont l'impression d'être relégués à la périphérie de la ville. Et alors qu'aujourd'hui, en réintégrant cette idée de nature en ville, en rebondissant sur l'idée de tram vert, tram bleu, il se trouve que ces quartiers, avec leur dimension naturelle, parce qu'ils ont d'énormes espaces verts, avec cette proximité de la périphérie, et avec cette situation qui est souvent sur un couloir qui peut devenir une tram verte et bleue, en redonnant un sens naturel à l'espace vert de la cité, en lui redonnant une vocation naturelle parce qu'il devient un élément composant de l'armature verte qui permet de réinventer la ville-centre, ça redonne un statut et un rôle, et donc du coup une qualité à des espaces urbains qui aujourd'hui étaient à la périphérie. Et il se trouve que sans doute, l'avenir de la ville n'est pas sur son centre, mais sur sa périphérie, ce qui fait que sans doute ces quartiers périphériques peuvent redevenir véritablement des centres et absolument réhabiter dans cette nouvelle dimension de la ville, réinventée au travers de cette dimension écosystémique que nous permet le projet hydraulique.
Passion pour l'eau au cœur de la ville. Vous avez débuté votre topo là par la goutte d'eau, et là j'ai un SMS qui est plus précis, qui me parle de la molécule d'eau, pour nous dire qu'elle nous survivra et que, oui, et que le sujet est celui de sa portabilité. Il y a un terme juridique derrière tout ça, mais il y a un sujet concret qui se relève de la capacité énergétique à organiser la circulation d'eau. Mais ce n'est pas la question que je vais vous poser, la question c'est celle des sous. C'est est-on apte aujourd'hui, est-on en capacité à innover, à pouvoir réenchanter la ville grâce à l'eau? Dispose-t-on des moyens? Quels sont les modèles économiques derrière aujourd'hui une meilleure gestion de l'eau?
Oui, alors ça, c'était
pour
effectivement...
Pour financer l'énergie.
C'est la question cruciale aujourd'hui, dès lors que, quand on prend le schéma du petit cycle de l'eau qui est canalisé, le modèle économique est très clair. Derrière, il y a, aidé par les modèles depuis 1965 bâtis par les agences de l'eau, l'eau paye l'eau. Les factures d'eau que nous payons, elles permettent de dépolluer et de préserver l'environnement. Alors peut-être qu'effectivement, tout un chacun, on ne le sait pas, mais chaque mètre cube d'eau qui est payé sert en partie justement à préserver l'environnement et à faire fonctionner ce petit cycle de l'eau qui marche très bien. Là où la difficulté se pose, c'est dès lors qu'on repasse sur ce, entre guillemets, ce que je baptise le grand cycle de l'eau et le pluvial et l'eau non canalisée, c'est qui va payer ça dès lors que la goutte tombe sur le sol. Alors aujourd'hui, il existe plusieurs expériences et plusieurs retours d'expérience. Alors j'en citerai deux. Le premier, c'est dans le domaine industriel, l'eau qui tombe sur le sol, dans le modèle industriel, on peut récupérer cette eau, comme on sait traiter n'importe quel type d'eau, on tourne en boucle Et à ce moment-là, on a un modèle économique industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des grandes entreprises comme l'automobile très consommatrice en eau, qui a beaucoup de parking, enfin un peu moins maintenant en France à cause de la faiblesse, la chute de stockage des véhicules, mais dans l'absolu, qui avait besoin de beaucoup d'imperméabilisation de parking, qui avait beaucoup besoin de hangars, eh bien, la création du modèle, pour revenir sur la question précédente, il existe des techniques de récupération d'eau de pluie. On traite, on désinfecte, on tourne en boucle, et quelque part, l'industriel fait de l'économie d'eau potable pour un usage industriel différent. Et donc, vous voyez bien arriver la question et l'approche économique qui est finalement, j'adapte un modèle économique en fonction de l'usage de mon eau et en fonction de sa qualité. C'est ça l'idée qui est naissante et qui s'applique complètement au schéma évoqué précédemment sur l'eau en ville, dont la qualité est non maîtrisable par définition, puisqu'elle tombe du ciel. Qui est d'ailleurs, entre parenthèses, on peut se reposer la même question que sur la table ronde 1, l'eau qui traverse les nuages, qui arrive sur une toiture et qui finit au sol, elle a traversé beaucoup de couches de polluants. Et c'est comme le nucléaire, hein, le nuage ne s'arrête pas à la frontière. Donc ça veut dire qu'il transporte beaucoup de polluants.
La goutte d'eau ne s'arrête pas au nuage.
Exactement, voilà. Mais donc dans ce modèle économique, il y en a un qui marche aujourd'hui, c'est le petit cycle pluvial. Dès lors qu'on a suffisamment de maîtrise de sa captation, de son traitement, de son volume, et on tourne en boucle. Et donc c'est le modèle industriel, ce qu'on qualifie. Deuxième modèle que je prendrai comme exemple, on a cité avant la ville de Berlin. Effectivement, la ville de Berlin, on la cite souvent dans le domaine de l'eau parce qu'elle est exemplaire. Et paradoxalement, pourquoi elle est exemplaire ? Parce que Berlin est une ville qui manque d'eau. Et donc Berlin, très tôt, a dû se poser la question de se dire comment je fais pour alimenter ma population. En plus, aujourd'hui, Berlin est un gruyère, hein, depuis la chute du mur. Est une ville gruyère où il y a des trous, vraiment au sens propre du terme, donc des zones mortes, ou d'espaces d'ailleurs délaissés, où on peut, d'où des réflexions de quartiers, d'éco-quartiers, qu'on appelle quartier durable, éco-quartier, tout ce qu'on veut. Et la ville de Berlin est une ville, pour le coup, qui a peu d'imperméabilisation, parce qu'elle s'est dit, je prends le problème tôt, et donc j'ai bien bâti mon petit cycle de l'eau, mais comme je manque d'eau, comment je fais pour recharger ma nappe souterraine ? Et donc là, pour le coup, très tôt, ils ont bâti la planification urbaine en parallèle de la planification du grand cycle de l'eau. Et à Berlin, vous vous baignez au cœur de la ville de Berlin, puisqu'il y a des lacs. Donc, pour répondre à un SMS de tout à l'heure, Berlin a des zones humides naturelles qui ont la chance d'avoir des bords de sol sablonneux. Et on en revient à la question de l'eau, de l'équilibre eau, sol, nature. Et quand on est sensibilisé d'un seul coup de redécouvrir que le sol a une vertu qu'on a oubliée, qui est notamment la vertu de la filtration naturelle. Et donc, au cœur de Berlin, le grand cycle de l'eau permet d'alimenter la nappe et permet de faire un usage touristique et d'attractivité. Et pourquoi je fais ce détour ? Bah, pour dire que le modèle économique de Berlin, il est fondé sur deux choses. Un, je taxe et j'incite à la non-perméabilisation au niveau de la parcelle. Il faut savoir que le prix de l'eau à Berlin est trois fois plus cher qu'en France. Le prix d'eau moyen, il est à 4 euros, 5 euros le mètre cube. Donc les Berlinois ont vraiment ce souci de faire l'économie d'eau, parce qu'on manque d'eau. Et donc, il y a ce premier modèle qui est l'incitation à lutter contre l'imperméabilisation de façon à favoriser l'infiltration naturelle. Et le deuxième modèle économique qui est lié, c'est le fait que la ville elle-même met de l'argent sur l'entretien, parce qu'on parle souvent de projet, de conception, mais après, il faut entretenir quand le projet est construit. Et la ville de Berlin entretient son grand cycle de l'eau pour alimenter et entretenir notamment les zones de baignade. Quand vous allez, pour ceux qui le savent, à Berlin, vous pouvez vous baigner au cœur de la ville de Berlin et les gens courent. Après, on pourra reparler sur tous les effets d'aménité et de monétarisation autour. Et donc, la ville de Berlin entretient et dans son budget général paye effectivement cet entretien. Alors nous, en France, on est un peu au milieu du guet, parce qu'aujourd'hui, on se renvoie tous la balle. Qui paye cette gestion et ces projets ?
Au milieu du gué, c'est parfait comme expression.
Oui.
Sur ce modèle économique.
Sur ce modèle économique, donc, Madame Huot a parlé du modèle des agences de l'eau. Il faut quand même le rappeler parce qu'il est tellement dans le paysage qu'on l'oublie. Hein, l'agence de l'eau Seine-Normandie, c'est quand même un budget de 800 millions par an sur l'ensemble du bassin de la Seine. Donc c'est quand même, c'est quantitatif et il faut le dire, ça existe depuis 50 ans. Et si on a un petit cycle de l'eau qui fonctionne aussi bien, c'est parce qu'on a eu une régularité des financements en face qui a permis de travailler aux côtés des collectivités et derrière de permettre aussi comment dirais-je, enfin, ce développement. C'est pas anodin, je le dis parce que c'est souvent quasiment oublié et effectivement ça pèse dans la facture d'eau puisque l'agence de l'eau prélève environ 15-17% de la facture d'eau, donc ce n'est pas anodin. Quand on regarde le modèle économique, je pense qu'il est pour partie inventé notamment par les concepteurs d'aménagement, les aménageurs, pour se dire finalement, si je rends ma ville plus poreuse, si j'évite des grands bassins de rétention, par exemple, parce que j'ai fait des chaussées drainantes, des parkings drainants, que j'ai rendu ma ville plus poreuse, j'évite un certain nombre de travaux, de tuyaux, de zones de concentration qui étaient en elles-mêmes coûteuses. Donc comment se fait le bilan économique de cette action? Parce que l'idée en rendant la ville plus poreuse, au moins jusqu'à, et donc en auto-gérant l'eau quelque part jusqu'à un certain niveau, ce qu'évoquait M. Laverne tout à l'heure, jusqu'à un certain événement pluvieux, finalement on ne s'en rend plus compte. C'est quand même ça la vertu du système, de la réintégrer dans le cycle du vivant. Et donc derrière, j'étais au Forum des projets urbains qui rassemblait un certain nombre de présentations de projets. Il y avait une présentation intéressante de l'EPA Plaine de France qui disait sur le quartier de Louvre, nous gérons l'eau de manière intégrée locale, ça nous coûte moins cher que si nous devions passer par des systèmes traditionnels de grands bassins qui préemptent un certain nombre d'espaces. Donc ça nous a permis de participer à la densification de notre espace aménageable. Donc là, moi je suis très mal placé parce que je suis dans le domaine de l'eau, mais ces réponses-là sur ça coûte moins cher de faire de telle manière, finalement, c'est, je dirais, au monde des aménageurs, à l'intelligence des bureaux d'études, de nous apporter des réponses, des comparaisons, qui me paraît très importante. On a parlé effectivement de la valorisation des aménités, et c'est quand même extrêmement important, parce qu'on dépense parfois des sommes extraordinaires pour créer quelque chose qui rend la ville attractive. Quand j'entends parler de la baignade, moi c'est un sujet que je trouve formidable, la baignade à Meaux, la baignade à Berlin, peut-être un jour la baignade à Paris. Non mais c'est pas du mythe.
Ça, c'est un serpent de mer, si j'ose dire.
C'est un serpent de mer, mais en réalité aujourd'hui on sait que c'est avant tout pour des questions de sécurité, des questions de gestion du temps de pluie, parce que si vous avez un orage, l'eau n'est plus, voilà, c'est très facile d'avoir quelques microbes qui rendent de l'eau non baignable, parce qu'on a des normes très strictes. Mais en réalité, on a fait des progrès absolument phénoménaux. Il faut quand même se rappeler, excusez-moi pour la petite digression, que quand on peignait les canotiers, etc., il y avait des bulles de fermentation dans la Seine qui faisaient un mètre de diamètre à l'aval de la zone d'Achères. C'était un vrai cloaque, la Seine. Aujourd'hui, les pêcheurs se plaignent parce que l'eau est trop claire et du coup, les poissons les voient venir de loin. Mais excusez-moi pour cette digression sur le modèle économique. Là aussi, où il y a une question de modèle économique qui se pose et qui est en lien avec le petit cycle. C'est la protection de la ressource en eau. Ce n'est pas un sujet qu'on a évoqué jusque-là, mais qui est lié. On a dit l'eau, le petit cycle, tout ça est bien réglé. Mais la ressource en eau se pollue. Cette ressource en eau qui approvisionne la ville. On n'a jamais eu une eau d'aussi bonne qualité au robinet et paradoxalement, on n'a jamais eu de nappe aussi polluée que ce qu'on a aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît, pesticides, nitrates, révolution agricole des années 50, etc. etc. Aujourd'hui, on fait des progrès, mais nos nappes, le niveau de pollution des nappes n'est pas stabilisé. Et là, une question dans le modèle économique, c'est comment cette ville qui va utiliser de l'eau, comment est-ce que le producteur d'eau, au sens collectivité responsable de la gestion de l'eau potable cette fois, va-t-elle intervenir, a-t-elle cette capacité d'intervenir dans le financement, par exemple, d'une agriculture différenciée dans les zones de captage pour favoriser un agriculteur qui va réduire les intrants. Et là, aujourd'hui, vous avez des mesures qui existent, les mesures agri-environnementales, donc là, on fait appel au budget européen de la PAC, mais quand on on parle de modèle économique, c'est comment, derrière ce budget, on peut aussi imaginer une connexion plus courte entre la collectivité, donc la capacité légale d'intervention de la collectivité. Vous savez que donner de l'argent à un agriculteur, excusez-moi pour être un petit peu long, mais ce n'est pas,
simple. C'est la question du modèle économique qui est toujours une question centrale. Tout le monde a plein de questions à ajouter.
Oui, mais enfin, là, vous touchez directement. Moi, collectivité, comment je fais pour vous payer, vous, agriculteur, dans un captage qui est à 10 km de ma ville, pour que vous mettiez moins d'intrants? Est-ce que j'en ai la capacité légale au-delà de l'aspect budgétaire lui-même? Et cette capacité légale est très importante, de manière à passer à un modèle économique où vous avez une vraie solidarité de fait. Ce n'est pas le budget de la PAC, deuxième pilier, qui intervient, c'est moi, ville, qui vous aide à protéger ma ressource. Voilà, donc ça, c'est le lien ville et sa périphérie sur un sujet qui était un petit peu différent de l'eau pluviale.
Eh bien, on a fait un grand tour d'eau. Je termine quand même par quelques petites questions. SMS, il y en a une bien précise qui est: n'existe-t-il pas en France une taxe sur les eaux pluviales assise sur les mètres carrés imperméabilisé, intégré à la dernière loi sur l'eau?
Si, il y a une taxe. Non, mais vous avez raison, il y a une taxe qui est en train de se mettre, qui a été mise dans la dernière loi, un certain nombre d'expérimentations en Ile-de-France. Moi, je connais le bassin de Lierre, où il y a une réflexion très avancée. Le SIAP également réfléchissait. Après, je ne connais pas au niveau national.
Juste peut-être un complément. Effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'il y a une réflexion, par analogie avec le petit cycle, de dire comment on va créer ce modèle économique pour entretenir, concevoir et entretenir le grand cycle du pluvial. Donc la réflexion a été, par analogie avec les Allemands, de dire on va effectivement taxer pour lutter contre l'imperméabilisation au mètre carré à la parcelle. Sauf que on est malheureusement en régime franco-français avec un millefeuille administratif extrêmement lourd. Et donc, ça remonte que depuis maintenant 2 ans, où on est à peu près stabilisé sur ces questions de mettre une taxe pluviale à la parcelle. Sauf que ce n'est pas vous que je vais apprendre, que ça tombe très mal aujourd'hui. Et donc, trop de taxes tuent les taxes. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu mis en veilleuse. En revanche, la question que ça pose derrière et par rapport à tout ce qui se dit, et ça rejoint un petit peu, entre guillemets, mon dada, mon oscillo, si on veut avancer sur ces questions, il va vraiment falloir qu'il y ait un big bang, excusez-moi l'expression, au niveau des collectivités locales et des acteurs, rédacteurs des cahiers des charges. Parce que vous voyez bien que dans la discussion que l'on a, on est tous autour de la table dans une approche de toute façon dans nos domaines de compétences. Les domaines de compétences évoluent, les collectivités elles-mêmes, les périmètres de compétences évoluent avec les communautés d'agglomération, c'est important, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si les cahiers des charges demain continuent à dire je veux lancer un projet de gestion d'eau pluviale strictement sur la gestion de l'eau pluviale dans lequel on ne peut pas introduire des innovations comme on les a évoquées, donc d'approches comme elles ont été évoquées, que ce soit au sol nature et d'autres exemples, pour gérer justement cette eau non canalisée, ben on va toujours buter devant le même mur. Et ce qui, moi, si j'ai un message à passer, c'est bien celui-là, et ce, à mon avis, pourquoi aussi, c'est un des fondements, je crois en tout cas, de la volonté que tous les membres de l'association ont, c'est d'essayer de se dire travaillons ensemble, faisons des propositions ensemble pour pouvoir répondre ensemble à des cahiers des charges et les faire évoluer. Si on n'y arrive pas, on restera toujours à un moment dans ces approches monosilo, et quelque part, on ne gagnera pas cette marge de manœuvre de gestion des interfaces sur lesquelles on va pouvoir économiser de l'eau. Je terminerai en donnant toujours le même exemple très concret que j'ai en tête. C'est aujourd'hui, quand on veut construire un terrain de foot, il est multi-usage aujourd'hui, le terrain de foot. Il peut à la fois faire fonction de récupérateur d'eau de pluie et d'atténuateur avant de partir dans les réseaux canalisés. En même temps, il est espace vert et en même temps, il est vraiment terrain de foot. Aujourd'hui, c'est 3 budgets différents qui ne se parlent pas. Donc, on va refaire 3 fois la même chose. Si les 3 corps de budget pouvaient se parler, ben, on pourrait avoir un terrain de foot multi-usage et on économise 30 à 40%.
Alors, dans le cas de Washington, on a parlé d'un terrain de baseball. Dans le cas français, c'est le foot. Mais ça ne peut être que le dernier mot de cette table ronde qui s'achève. Sinon, quand même, un SMS qui est marrant. Vous avez 5 euros du mètre cube. C'est donc Berlin, mais c'est pas cher. La cristalline, 158 euros du mètre cube. Les eaux minérales, 300 euros du mètre cube. Et le Perrier en terrasse, 10 000 euros du mètre cube. Moi, je pense que c'est un calcul sympathique dont chacun tirera les conséquences qu'il souhaite, notamment quand il est en terrasse. Ah, monsieur Laverne, vous voulez dire un dernier mot? Normalement, on n'a pas le droit, mais allez-y.
Oui, non, c'était juste sur cette idée quand même pour... si on peut faire la conclusion, ça serait pas mal d'ailleurs. Ah ouais. Mais on est à un moment où on doit démontrer que la nature rapporte plus qu'elle ne coûte à la ville. On a longtemps considéré l'inverse et donc on croyait effectivement qu'urbanité et naturalité étaient absolument contradictoires. On démontre l'inverse et je pense que la gestion de l'eau en est un vecteur absolument efficace. C'est-à-dire que gérer l'eau de manière alternative en surface dans la ville coûte pas plus cher que de la mettre en tuyau. Et puis ça a au moins une valeur, c'est que ça crée en plus du paysage. C'est-à-dire que les tuyaux, on ne les voit pas. Mais quand on dégage un espace et qu'on crée un espace de nature en ville, d'un seul coup, effectivement, l'investissement est là, effectivement, multi-usage et permet d'être mutualisé. Se pose juste la question de la gestion de ces espaces qu'on nous pose tout le temps. C'est-à-dire, effectivement, on multiplie les jardins dans la ville, effectivement, et ça pose un coût de gestion aux collectivités, forcément, tous ces espaces de nature. Alors, effectivement, il faut gérer ces espaces de nature. Mais malgré tout, et c'est là que je reviens à la question de la pédagogie du début, c'est qu'il faut arriver effectivement, et on a un gros travail à faire ensemble, et c'est sans doute aussi une des missions du vivant et la ville, de convaincre les urbains que l'image de nature en ville doit évoluer. Et si on le sait la faire évoluer, et si on arrive à admettre que cette idée de nature, elle n'est pas proche du sauvage, mais en tout cas, elle est plus distante du sophistiqué. Les coûts de gestion seront à ce moment-là effectivement amoindris. On ne prendra plus l'argument de la gestion des espaces de nature pour ne pas faire de nature en ville.
Parfait. Je vous invite à applaudir chaleureusement nos amis.